Je voulais savoir donc l'intérêt que de la Tsinyouk et pourquoi c'était des halakhot aussi compliquées. Donc, quelle est la véritable raison de la Tsinyouk par rapport à la Torah?
Ok, alors il y a une erreur. Les gens comprennent Tsinyouk, c'est donc la traduction du mot Tsinyouk, c'est pudeur. La pudeur, c'est une chose qui est physique, c'est-à-dire que la femme, elle doit cacher son corps. À part les parties permises qui ne sont pas grand chose, la tête, et pour une femme mariée sans les cheveux, jusque là, et les mains jusqu'au coude, mais on pourrait être certain que même quand on levant les bras, le coude ne va pas être dévoilé, si on prend au moins 10 cm en plus. Bon, il est certain que c'est pas de cela que parle la Torah quand elle parle de pudeur. Elle parle de cela, mais aussi de beaucoup plus que cela. Et si on réduit la pudeur à que ça, alors on n'a rien compris. Le prophète Malachi, il dit, qu'est-ce que Dieu demande de toi? Ki im, si ce n'est Hatsnea lechet imelokecha. Que Hatsnea, c'est donc de la pudeur, lechet, aller avec pudeur, imelokecha, avec ton Dieu. Tout ce qu'il demande. C'est-à-dire que dans la Tsinyout, en fait, il y a ici un secret énorme, parce qu'on me dit que c'est tout ce que Dieu me demande. Donc il y a ici une chose qu'il faut comprendre, on va essayer d'en parler, je parle de choses profondes.
On parle des hommes et des femmes.
Ouais. Absolument. Je vais pas avoir quelque chose qui est profonde. Et c'est tout à fait de mise. Ça veut dire que le sujet dont je parle, quand je parle de pudeur, je parle de profondeur. En deux mots, Dieu, c'est une chose qui est profonde. La relation avec Dieu est une chose qui est profonde. Alors on a parlé l'autre jour de comment je peux moi savoir que Dieu existe. À part par une démonstration rationnelle, comment je peux sentir, à part une émouna, une foi que j'ai reçue de mes ancêtres, j'ai reçue de mon éducation, d'un lavage de cerveau qu'on m'a fait, un bourrage de crâne. Est-ce que je peux savoir que Dieu existe? Alors je peux savoir. On a parlé, je ne passais pas le sujet maintenant, c'est rapidement. On a parlé que nous avions en nous des pulsions de sens. Nous cherchons un sens à notre vie. S'il y a un sens, c'est qu'il y a un créateur. On ne peut pas chercher de sens s'il n'y a pas de créateur. Parce que s'il n'y a pas de créateur, donc nous sommes là par hasard. Et le hasard, un plancton, on a une chose qui a été faite par hasard. On ne va pas chercher de sens, une chose qui a été faite par hasard. Si tu recherches un sens, c'est qu'il y a une chose qui dirige. Donc il n'y a pas de hasard. Il y a un sens, il y a un sens à ma vie. Quand nous avons développé en nous notre soif de sens, et notre soif de sens vrai, donc de vérité, nous parlons de choses qui sont profondes. Parce que la majorité du temps, la majorité ne cherche pas le sens. On est pris par nos soucis, comment payer ci, comment payer ça, nos envies, nos frustrations. On est au niveau terrestre que j'appellerais râle et pâquerette. Quand on parle de Dieu, quand on parle de pulsion de sens, quand on parle de vérité, on a parlé rapidement l'autre jour aussi de Viktor Frankl, donc ce grand psychanalyste qui, durant la Shoah, a découvert qu'à parce que Freud disait qu'il y a une libido de pulsion sexuelle, il a dit qu'il y a aussi une libido, d'accord, de pulsion de sens. Et ça, il a découvert durant la Shoah. C'est-à-dire que lorsqu'on enlevait aux gens toutes les pulsions qu'ils pouvaient avoir, il n'y avait pas de bonne femme, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'honneur, il n'y avait rien. Rien de rien. Complètement éliminé. Ton avoir, ton corps, il n'y a plus rien. Ceux qui ont tenu, c'est ceux qui avaient un sens. Qui comprenaient, ok, il y a ce monde, mais il y a autre chose. Il y a moi, il y a une création, il y a un créateur, il y a un sens, des choses spirituelles. Les juifs disaient aux nazis, vous possédez nos corps, mais pas nos âmes. Si c'est un blabla, ça ne tient pas dans les camps. Ce qui faisait que j'en tenais, c'est qu'il y avait réalité d'âme. Donc on peut arriver dans ce monde-là à sentir une réalité de vérité. Mais ces choses-là, ce sont des choses qui sont extrêmement profondes, extrêmement fines.
Est-ce qu'on ne peut pas des fois, parfois, créer une vérité, ne serait-ce que pour s'accrocher à quelque chose?
Oui. Alors c'est ce que ça existe, il y a le mensonge. Le mensonge s'habille en disant je suis la vérité.
Non, ou simplement se dire moi je n'y arrive plus, alors comme je me sens faible, j'ai rien à quoi me raccrocher quand je vais m'inventer une réalité à laquelle
je suis. Tu vas t'inventer, donc cette réalité que tu appelles vraie est une invention. C'est un mensonge. Le mensonge, il y en a beaucoup dans le monde. Il se fait toujours appeler vérité, il ne s'est jamais appelé mensonge. Il y a beaucoup de vérités, de gens qui sont prêts à mourir pour leur vérité.
La difficulté, c'est de guerre, en fait.
Alors, il y a une pulsion qui recherche la vérité. Maintenant, nous recherchons la vérité. Tout le monde cherche la vérité. Nous cherchons la vraie vérité. D'accord ? Alors, on peut la démontrer, c'est pas compliqué. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une pulsion authentique chez l'être de vérité. Ces choses-là sont des choses qui ne sont pas possibles pour un être qui ne pense que ce que nous appelons le mensonge. Ça veut dire qu'il est pris par d'autres choses. Dans son monde, aujourd'hui, se réduit à ses soucis, à ses envies, à satisfaire ses envies, à satisfaire ses besoins, à satisfaire ses espérances, d'accord ? Il veut acheter une télévision, il veut acheter un DVD, il veut acheter une voiture, il veut acheter un château en Espagne, il veut être machin, il veut coucher avec, je sais pas. Tout le monde a ses... Alors, t'as pas de place. T'as pas de place dans ta tête pour penser aux pulsions qui sont les pulsions de vérité. C'est pour cela que, de façon déjà artificielle, on va essayer de limiter. On va appeler les pulsions matérielles pour laisser place aux pulsions de vérité spirituelle. Bon, ça commence déjà que lorsque je vois une femme, je peux lui parler à elle et non à son corps. Je peux considérer une femme sans que ce soit un morceau de chair, avec une rondeur satisfaisante ou pas, d'accord ? La femme n'est pas qu'un morceau de chair rond.
Non.
Alors demander l'heure aux femmes, ça les dérange. À part les femmes qui sont extrêmement superficielles, ou hélas qu'on subit un bourrage de crâne terrible, la peur de leur féminité, d'accord ? La féminité, ça veut dire montre tout. Parce que tu n'es que ça. On appelle féminité ce qu'elle a à montrer ou à cacher qu'elle veut montrer. D'accord ?
Simplement aussi ce qu'elle veut montrer en premier, on peut dire.
D'accord.
Elles ne sont pas que ça.
Alors, nous disons qu'elles ne sont pas que ça, mais si elles montrent que cela, et nous, on regarde que cela chez elles, ça réduit la relation à pas grand-chose. D'accord ? C'est rien. C'est superficiel. Or, nous sommes tous conscients que dans l'être, il y a une profondeur. Il y a une richesse intérieure. Les gens sont pauvres. Les gens recherchent le kavod. Tu prends des gens qui sont assis ensemble. Fais un exercice terrible. Vous êtes des copains assis ensemble. Chacun parle de 3-4 copains, 5 copains. Tais-toi pendant un quart d'heure. Ne donne pas ton avis. Insupportable. Parce que c'est vital pour nous. Donner mon avis. Quand je donne mon avis, on m'écoute, je reçois un feedback, un écho.
C'est simplement peut-être pour donner son idée de la vérité.
C'est plus que cela. On ne parle pas de vérité maintenant, on est au bord de la mer, en train de jouer aux cartes, et on se lance des vannes, on raconte des blagues. Si toi, tu n'as pas raconté ta blague pendant un quart d'heure, tu n'as aucune blague à rater, j'existe. Il faut que tu places ton mot. N'importe quel sujet, n'importe quoi. Parce qu'on n'a pas de richesse intérieure. On est pauvre. Le pauvre, c'est celui qui demande, celui qui a besoin de l'autre pour vivre. Beaucoup d'êtres sont pauvres parce que sans qu'il y ait l'autre qui lui dise « tu existes ». C'est comme deux pauvres. La réalité dit que deux pauvres peuvent se donner la tzedaka l'un à l'autre. Alors on vit dans un monde de pauvres. Oh, écoute, je t'écoute, et je dis « tu existes », mais tu m'écoutes aussi. D'accord ? Quelqu'un qui est riche n'a pas besoin de l'autre pour dire « j'existe ». Comment on fait pour être riche ? Alors, on doit développer en nous une richesse intérieure. Chazal dit une très belle parole, très très belle parole. Elle est très simple, mais c'est tellement rempli de sens. Elles disent « Istaria belagina kish kish karia ». C'est de l'araméen. « Istaria », c'est une pièce de monnaie. « Belagina » dans une amphore. « Kish kish karia », elle appelle, car elle courait, elle appelle « kish kish », elle crie « kish kish ». Prends une amphore. Mets dedans une pièce, secoue l'amphore. Qu'est-ce que t'entends ? Schling, 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 schling. Prends maintenant une amphore, remplis-la de pièces. Secoue-la. t'entends plus rien. Quelqu'un qui est riche, pas besoin de l'entendre, on ne l'entend pas. Quelqu'un qui est pauvre, qui est partout, et moi, et... D'accord ? Et ça, c'est très flagrant chez les jeunes. Les jeunes qui n'ont pas encore le temps de prendre la bouteille du poids, ça veut dire de la richesse intérieure, qui est superficielle, c'est-à-dire qu'ils se remplissent de l'extérieur, il n'y a pas encore d'intérieur. D'abord, même au niveau physique, il faut rester assis longtemps, il faut que ça... Ça saute, il faut qu'il y ait du mouvement, quelque chose. Je ne peux pas rester longtemps avec moi parce qu'il n'y a rien. Il faut qu'il y ait quelque chose, d'accord ? Il faut que ça vive, il faut... Dans le monde goy, c'est très très évident. On va au cinéma pour sentir des choses violentes. On a besoin d'action. Action ! Sans action, la vie est pauvre.
La drogue,
quoi ? Il faut ressentir des choses. Il faut que mon corps, mes sentiments, il faut que je tremble, il faut que je vibre.
Je participe.
Maintenant, l'être humain a des capacités de vibration, de vibrer immense, parce qu'il peut vibrer avec la vérité. Et la vérité remplit beaucoup plus où tu trembles. D'une partie de poker ou de jouer, rouler en Ferrari à 280 à l'heure. Tu peux vibrer dans des choses qui sont réelles. Quand tu vibres dans la réalité qui est vraie, tu vibres dans une réalité. C'est. C'est les choses qui sont dans la réalité. Donc elles sont, donc il y a du tangible. Quand tu vibres pour le rien, ben, qu'est-ce qui reste à la fin? Rien. Donc tu restes pauvre. Quand on parle de pudeur, quand Dieu parle de pudeur, aller avec pudeur avec Dieu, ça veut dire me séparer de l'extériorité et développer dans l'intériorité. Ça passe au niveau primaire, je dis bien primaire, cacher le corps, chez l'homme aussi. Parce que, vu qu'on parle de spiritualité, vu qu'on parle de choses qui sont très profondes, très intérieures, rien que le corps qui apparaît déjà, c'est un peu grossier. C'est des choses que je ne peux pas expliquer mieux que cela parce que c'est très dans le monde du senti. Et une fois qu'on sent cela, on le vit.
Et comment vous expliquez, à part à ce que vous me dites là, que celui qui ne cache pas sa nuque, d'accord ? Alors lui, il n'est pas pudique. Ou celui qui ne cache pas ses pieds, il n'est pas pudique. Ça n'a rien à voir avec la superficialité, ça n'a rien à voir avec le désir de rechercher et son bonheur et
aussi,
son
absolument.
En dehors de...
Donc d'abord, la nuque, c'est pas... Les pieds, non. Les pieds, non, parce qu'on personne ne va à pied aujourd'hui. D'après le judaïsme, la Torah dit, t'as pas le droit de te dénuder, même en tant qu'homme, si ce n'est en situation de nécessité. Je vais me doucher, je vais pas me doucher habillé, d'accord ? Ou si je vais à la mer pour la santé, pour être bien, c'est important de faire du sport, d'accord ? Je ne vais pas aller maintenant m'étouffer, d'accord ? C'est pas intelligent. Mais à partir de ce moment-là, parce que quelqu'un qui doit se changer, on se change en sniout. C'est pas si grave maintenant si j'ai montré une partie de ma chair. J'ai changé, j'étais en culotte, et j'ai mis un pantalon, j'ai mis un pantalon. 3 secondes, on a vu mes jambes. Waouh ! C'est pas si grave. La Torah dit non. Pourquoi ? Parce que lorsque tu as une perception, et c'est que si tu as ça, à la perception. C'est-à-dire que si tu as une perception de la présence de Dieu, cette relation avec Dieu, avec ton toi intérieur, tu es la profondeur, les choses extérieures, elles happent cette perception, elles cassent cette perception. C'est bien simple. Tu ne peux pas bâtir dans la matière et bâtir dans la spiritualité. Si t'es extérieur, t'es pas intérieur. Si t'es intérieur, t'es pas extérieur.
On ferme les yeux.
Pardon ?
On se change, mais sans se couvrir ou quoi que ce soit, et on ferme les yeux, on regarde.
Tu sais quelque part qu'il y a une réalité de vérité qui est partout. Tu es différent. Comment expliquer cela ? Pourquoi est-ce que tu n'irais pas maintenant les yeux fermés à l'extérieur en culotte ? Je suis gentil, je n'ai pas tout nu, je suis en culotte.
Ça dépend de... Je sais que je suis.
Mais qu'est-ce qui quand tu regardes mal?
C'est interdit. Enfin, je sais pas, ça dépend de quel côté tu es.
Je pense que je suis tout seul maintenant. Tout seul dans la chambre.
On se retrouve maintenant. Il y a un bateau qui a fait naufrage. On n'est que des hommes sur le bateau. On est sur une île déserte. On est 30 hommes. Allons, ça y est, écoutez, pourquoi on se casse les pieds? Soyons tous tout nus. Il fait beau temps.
Parce qu'il y a les autres.
Tout nus, tout bronzé, disait quelqu'un il y a un certain temps. D'accord.
Il y a les autres.
Hein?
C'est Pierre Perret.
Ouais.
Il y a les autres. Ça,
on est 30. On est entre nous. Ah, en quoi te dérange le regard de l'autre? Pourquoi honte?
C'est pas
pourquoi
honte.
Pourquoi honte?
Parce qu'on est dévoilé,
Et alors? Et alors? Mais c'est rien, c'est mon corps. C'est mon corps.
Ça me dérange pas le regard de l'autre. Ce qui me dérange, c'est que l'autre, ça m'embête que je sois comme ça.
Non, ça m'embête pas du tout. Écoute, soyez tous nus.
Il y en a qui veulent être nus devant moi, ça me dérange.
Soyez tous nus. Moi, ça me dérange pas. Mais moi, je ne serais pas nu.
On dévoile son intériorité.
Ok, je vais tout pour
lui. Alors, voilà, des moments maintenant où il y a nécessité, par exemple, migrer le monde autochtone, les hommes sont nus ensemble, enfin, chacun.
C'est mort, on a nécessité, on aurait très bien pu faire une séparation dans migrer, celui qui rentre, il rentre seul, il enlève sa serviette, il se trempe, il ressort.
Et t'aurais une queue de 100 mètres, d'accord? Ouais, on n'a pas le temps.
Expliquez-nous pourquoi.
Deux secondes. Alors, la réponse, elle est comme il l'a dit Mordechai. Ça veut dire, j'aurais honte. C'est quoi, j'aurais honte? Il y a une partie intérieure à moi. C'est mon même dans mon corps, il y a une partie qui est intérieure à moi, je ne dévoile pas. Un dévoilement, c'est une chose qui est intérieure que je mets à l'extérieur. Par rapport, par exemple, à quelqu'un qui me rapproche, ma femme, par exemple, ça m'est égal qu'elle me voit nu, parce que avec elle, j'ai une relation intérieure. Donc c'est pas si grave parce que nous sommes, j'ai pas honte d'elle, parce qu'elle vit, je lui dévoile mon intérieur. Nous bâtissons ensemble un intérieur. Mais quelqu'un qui n'a rien à voir, de quel droit il voit mon intérieur? C'est pas. Quelqu'un qui fait ça, qu'est-ce qu'on dira? Il est léger, il n'a plus d'intérieur. Si son intérieur devient extérieur, tout le monde peut voir, c'est une preuve qu'il n'a pas d'intérieur.
Au niveau d'admissibilité de matin, je veux bien
alors tu comprends qu'il n'y a aucune différence entre nudité, que on va prendre les fesses, d'accord? Bien. Pourquoi il y aurait une différence entre les fesses et les reins?
J'en vois pas.
Hein? Aucune. Ouais. Il n'y a aucune différence entre le sexe et les reins non plus.
Oui, mais
et
il y a ton une nez. Différence entre les bras et les fesses.
Hein?
Exagéré.
Quelle différence il y a entre les bras et les fesses?
C'est une partie qu'on monte facilement, ça ne dérange personne. Ça, si demain, si tout le monde vient avec les bras comme ça,
il y a pas, c'est les reins aussi. Les reins aussi.
Non, les reins, non,
ok, alors,
c'est la partie du.
Très bien. Alors la Torah, un moment. La Torah, elle a donné des limites. Elle a dit, ça c'est parti de l'intérieur. Ça déjà, c'est dévoilable. Les grands indiqués au Maroc, la halakha n'est pas comme ça. Mais ils cachaient aussi cette partie-là. Ils montraient que la face. D'accord? Ils voyaient que les mains. La halakha, tu peux montrer les hommes et les hommes qui montrent plus le coude. Il y a beaucoup qui, moi par exemple, jamais. C'est beaucoup plus. Je serais éduqué comme ça, d'accord? C'est mieux. Il y en a qui montrent jamais plus haut que le poignet. Ça c'est déjà chacun avec son appréciation personnelle. La halakha te dira, bon, il y a un minimum, un dénominateur commun pour tout le monde, le minimum de tout le monde. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir de la chair d'homme? On n'est pas, on n'a pas des tendances homosexuelles, on n'a pas de problème, donc c'est pas si grave. Alors, oui, c'est pas si grave, mais c'est très grave. Pourquoi? Parce que tu dévoiles de l'intériorité. Ça aussi, c'est parti maintenant. Quand quelqu'un dévoile l'intériorité, ça va casser cette intériorité. Il n'aura plus d'intériorité.
Tout d'un coup, au Mikvé, pour une histoire de queue, alors ça y est, tout ça, c'est parti.
Tu verras que les chassidim, au Mikvé, par exemple, ils font attention de ne pas regarder ni toi, ni que tu le regardes. C'est possible. D'accord?
D'accord, mais bon, alors, si je viens au Mikvé, tu sais pas,
c'est toujours bien. Tu peux aller regarder comme ça. Il n'y a pas de faux.
Non, pas regarder, mais même, il n'y a pas. Tout d'un coup, pour une histoire de convention. Quelque chose, un interdit de la Torah qui semble être important, on a mis des barrières, etc.
C'est une bonne mesure. On a dit, partout où il y a nécessité, personnellement moi, c'est une halakha, d'accord, avec mes enfants, avec mes élèves, c'est marqué, c'est pas du kavod du rab, elle est en même temps au bain. Si un élève me voit tout nu au mikvé, je suis pas à l'aise. La halakha dit cela. Mais pourquoi? C'est quoi la notion de kavod? On doit du kavod aux parents. On doit du kavod au rab. C'est quoi kavod? Ça rejoint exactement ce que
mettre
je dis.
Mettre une distance, une séparation.
Pas que ça.
Kavod,
c'est du mot kaved. Kaved, c'est aussi lourd. C'est de quoi lourd? Ça veut dire, du kavod, c'est quand tu as une personne qui va laisser cacher une grande partie de lui et dévoiler un peu. Directement, il inspire du kavod. Il inspire du respect. Parce qu'on voit que cet homme-là, il ne dévoile pas tout. Il dévoile, il est très gentil, tout ça, mais il y a une partie qui reste cachée à lui, cachée.
Ça peut inspirer du rejet aussi, une sorte de fermeture. Il y a toujours.
D'accord. Alors, à nous de savoir maintenant, quelqu'un à cause de la distance, il peut être complètement froid. Un autre, mais il y a des choses qu'il ne fera pas, tu comprends, c'est marqué, il ne va pas sortir au bistrot avec tout le monde et il danse, il crie de monde, il danse, il chante. C'est pas cavote. Pourquoi c'est pas cavote? Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire ça? Ça manque de. de stature, c'est léger. Or, on attend d'un Chacham qui soit, qui ait de la stature. On parle d'une stature spirituelle, c'est pas qu'il doit être lourd, d'accord ? Il doit être lourd dans son âme, c'est-à-dire qu'il a une intériorité. C'est une raison de tsniout que nous parlons de sa vie, est-ce qu'on le premier pas vers beaucoup plus ? Si on ne sait pas raconter à tout le monde tout ce qui se passe dans ma vie, c'est tsniout, c'est le Rav Volbé, dirons le Vahad qui est décédé il y a 3-4 semaines, un jour il a dit à un de ses élèves, je te dis maintenant une chose, ça fait 20 ans que j'ai compris ça, mais je ne dis à personne, parce qu'il veut que c'est vivre en lui. Une chose que tu as perçue, quand on parle de choses profondes en Torah, que tu as perçues, ça vit en toi. Ça vit en toi, ça, c'est une résonance. Si tu l'as dit, tu perds beaucoup.
Tu as limite. Tu devrais dire.
Un beau jour, mais d'abord que je me remplisse bien, parce que du moment où je la dis, je la perds. C'est comme ça. Les choses qui sont profondes, les choses qui sont riches, quand on les sort, elles perdent. Alors, tout dépend qui, quoi, comment, de faire, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on a, mais c'est que je dois créer chez moi une richesse intérieure, parce que c'est ça mon être, c'est ça ma relation avec moi-même, c'est ma relation avec Dieu. Si tout ce que je perçois, tout ce que je dis, tout le monde le sait, ben, je deviens un homme extérieur, je n'ai plus d'intériorité.
Sinon, il y aurait quelque chose par rapport à. Il croit avoir vu un NS, un Simon, il faut l'appeler.
Ça suffit pas. D'abord qu'il le vive, au moins 24 heures, d'accord ? Tu verras que d'ailleurs, on a tendance à tout de suite dire. C'est marqué, Rabbi Shimon Bar Yochai. Bientôt, la semaine prochaine, c'est ça Iloula. Alors, à la fin du Zohar, dans une certaine partie du Zohar, il y a ce qu'on dit, la Hydra Rabba. C'est le dévoilement. Il a réuni 10 de ses élèves, il leur a dévoilé les plus grands secrets qu'aucun être humain n'avait le droit de dévoiler, même au Shabbat jusqu'à ce jour-là. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a eu le droit de dévoiler cela. Tous les grands secrets de la Kabbalah étaient juste comment depuis Dieu, tous les mondes descendent. Puisque je suis à tout l'enchaînement des mondes jusqu'à ici. À la fin de ce dévoilement, 3 personnes sont mortes des 10. D'accord ? Ils étaient beaucoup, en 3 sphères supérieures, très très haut. Il leur a dit auparavant, je dois réparer chez vous la mida de Megalesod Oler Rachil. Oler Rachil Megalesod. Celui qui, Oler Rachil, c'est un colporteur, quelqu'un qui va à Rechilou, qui va dire, j'ai entendu, il raconte tout ce qu'il a fait, d'avant. Megalesod dévoile les secrets. Il dit pourquoi. Lorsque quelqu'un apprend un secret, on va parler maintenant au niveau bébête, au niveau plus profond. Au niveau bébête, j'ai appris maintenant que un des barons de la Yeshiva, il est en chidour, mais il n'y a personne. D'accord ? Il est en chidour avec une fille. La fille de la princesse de Monaco s'est convertie et l'anchidour est un barreau de la Yeshiva. Bon, mais il n'y a que toi qui es au courant. Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, que ce secret, Oler Rachil, il colporte, c'est quoi ? Dans le corps de la personne. Tac, tac, monte, il descend, il n'est pas tranquille. Il doit dire à quelqu'un, tant qu'il la sent, il ne peut pas se tenir, parce qu'il n'a pas de stature, il n'est pas grand, il est petit, il est superficiel. Donc ce secret, ne laisse pas tranquille, jusqu'à ce que, pouc, il sort à quelqu'un. Oh. Je t'ai pas dû faire avec ta personne, hein. Il est déjà plus fin. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui m'a dévoilé les grands secrets de la Kabbalah mystique juste et qui les choses qui sont les plus vivantes, qui peuvent donner le plus de vie intérieure, dit pour que ça vive chez vous, pour que ça ait une résonance, ou d'abord que vous êtes capable de ne pas parler. C'est quoi un secret ? Un secret, c'est pas un secret militaire, c'est une chose qui se dit pas. Jusque même si je t'explique, tu ne peux pas la comprendre. C'est une chose que même si je t'explique, tu ne peux pas la comprendre. Parce que si je t'explique, déjà, c'est plus un secret. Donc pour que quelqu'un puisse comprendre, il faut d'abord qu'il ait une intériorité très puissante. Et une fois qu'il a reçu ça, il le garde. Parce que s'il le sort, c'est plus un secret, ça n'a plus de résonance, ça n'a plus de vie en lui. Il a tué tout ce qui a pu donner de résonance. Donc la Torah, la vie avec Dieu, c'est une vie intérieure. Ça commence par les habits, ça finit par beaucoup plus. On ne dit pas devenir des grands rabougris secrets, mais il y a une partie qu'on dévoile toujours, une partie qu'on garde. Qu'on garde, qu'on dit aux gens que t'es plus proche, etc. Mais il y a une intériorité. Baruch Adonai, Amen, Amen.